L'invité.
Même si la conception de la famille change et que le nombre de mariages célébrés ne cesse de diminuer d'année en année, le rôle de la famille reste capital. Cette semaine, Phare FM met à l'honneur les familles en organisant une semaine spéciale autour de la famille avec un fil rouge. Comment va-t-elle, la famille ? Différents sujets seront abordés avec Stéphane Clauzon, président de l'Association familiale catholique du Bas-Dauphiné. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs.
J'ai quand même envie de commencer par vous poser cette question-là, avant de la détailler. Comment vous avez l'impression qu'elle va, la famille, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que dans une société où la famille est de plus en plus déconsidérée, où on a l'impression qu'elle est de plus en plus déconsidérée, j'ai envie de dire que la famille va pas si mal que ça, et qu'elle est pleine de ressources. Maintenant, il faut savoir exploiter ces ressources et puis les faire valoir auprès du reste de la société. Une société qui, au départ, a été fondée sur la famille et qui, aujourd'hui, ne la reconnaît pas comme telle. Donc, se réapproprier le domaine de la famille et faire valoir toutes les richesses qui sont au sein de nos familles.
Pourquoi est-ce que vous dites, alors, finalement, qu'elle va pas si mal ? C'est quoi les raisons d'espérer, les raisons de se réjouir ?
Alors, on le voit depuis 2013, mais... Je pense que c'est un mouvement un peu plus profond qui fait que sur les débats de société, on entend beaucoup plus les familles. Les familles s'investissent de plus en plus, se forment de plus en plus. Les conférences, les débats, tout ce qui a trait aux sujets sociétaux, les familles les prennent de plus en plus à cœur et s'investissent sur ces sujets. Pour moi, c'est un signe d'espoir et de montrer que la famille... Elle est passée d'un stade où elle était le fondement de la société et reconnue comme telle. Donc finalement, on était tranquille et on n'avait pas besoin de bouger. À un stade où maintenant dans la société, elle est un peu mise à mal. Et du coup, elle oblige à se recentrer sur ce qu'elle est profondément et à exploiter toutes les richesses qui peuvent en découler.
On va discuter un petit peu de tout ça donc, dans le cadre de cette semaine spéciale de la famille. Quand on pense à la famille, on pense assez rapidement à la procréation et donc aux états généraux de la bioéthique qui se sont terminés le 30 avril. L'association familiale catholique du Bas-Dauphiné, comme beaucoup d'associations familiales catholiques d'ailleurs, ont été impliquées dans ces états généraux de la bioéthique. Comment se sont-ils passés d'une manière générale ? Quel est votre ressenti sur ces états généraux ?
Alors dans un premier temps, un espoir que enfin on aborde des vrais sujets de société qui jusqu'à présent n'étaient pas abordés ou en tous les cas pas accessibles au commun des mortels entre guillemets. Ensuite ces états donc avec le site des états généraux de la bioéthique qui a été mis en place, avec les différentes conférences qui ont pu être faites à la fois j'allais dire de façon officielle par le gouvernement, mais aussi après par les églises, les différentes églises, et puis les associations, les mouvements. Il y a eu un élan de prise de conscience que ces sujets-là sont des sujets importants, qu'ils ne sont pas réservés à une certaine catégorie de personnes, et qu'ils sont aussi au cœur de la conception qu'on a de l'homme dans la société. Au-delà de la famille, c'est bien la conception de l'homme qu'on a dans la société qui fait que de la naissance jusqu'à la mort, comment va-t-on envisager cette vie du début à la fin ? Comment un gouvernement peut aider les familles, peut aider les personnes à les accompagner du début jusqu'à la fin de leur vie ? On ne sait pas aujourd'hui comment vont être exploités les résultats à la fois des débats qui ont eu lieu, des fois mouvementés, avec des comptes rendus de presse qui n'étaient pas forcément toujours très justes ou qui ne reflétaient pas forcément parce qu'il y avait du partisanisme dans ces discussions. On ne sait pas comment ils vont être exploités, mais en tous les cas, on a fait tout ce qu'on a pu pour pouvoir en parler, pour pouvoir se former, pour pouvoir faire que ce sujet, toute personne de bonne volonté puisse s'investir dessus, puisse donner son avis et puisse se faire une conception propre de quels étaient les enjeux.
L'un des sujets qui était beaucoup débattu lors de ces états généraux de la bioéthique, c'est bien sûr la procréation, donc la PMA et la GPA. Alors on a déjà beaucoup parlé de ces sujets-là, notamment avec Aude Mirkovic, qu'on avait eu déjà ici dans l'invité de la semaine. Mais d'une manière générale, vous en tant qu'AFC, donc Association Familiale Catholique, quelles ont peut-être été vos propositions sur cette thématique-là ?
La PMA, elle existe déjà. Le problème est encore de savoir si on va enlever le verrou médical sur la procréation médicalement assistée. Notre position, elle est de dire si on enlève ce verrou et des gens qui ne sont pas catholiques ou étiquetés catholiques en tous les cas, comme le professeur Jacques Testard qui est quand même une pointure sur le sujet puisque c'est le père de la fécondation in vitro, a dit clairement, il a dit si on enlève le verrou médical, c'est l'ouverture à la greffe d'un utérus pour un homme. on enlève l'idée qu'on est là pour réparer une infertilité, pour faire une expérience médicale. Alors, c'est tout à fait louable de vouloir avoir des enfants. Maintenant, jusqu'où peut-on aller? Et c'est une vraie question. Notre position, elle était clairement contre l'enlèvement de ce verrou. Et elle était aussi d'approfondir le sujet pour se dire et pour aller jusqu'au fond de ce qu'est la procréation médicalement assistée et de dire jusqu'où peut-on aller dans les progrès qu'a fait la science aujourd'hui pour répondre à des attentes qui sont peut-être tout à fait légitimes pour un couple, mais jusqu'où peut-on aller sans faire de l'embryon, sans faire de l'enfant un objet, voire une marchandise.
Finalement, ce désir de fonder une famille va fragiliser le principe même de famille ?
Ça dépend ce qu'on appelle fonder une famille. C'est-à-dire que, mais je crois que Aud Mirkovic l'explique beaucoup mieux que ce qu'on peut le faire en tant que spécialiste. Elle démontre jusqu'où va ce phénomène, c'est-à-dire que ça va même à l'encontre des principes d'adoption. Donc on est vraiment sur une grosse problématique et fonder une famille, mais à quel prix ? On peut très bien fonder une famille. Si je kidnappe l'enfant de mon voisin, je peux très bien dire que je vais fonder une famille avec cet enfant. Est-ce que je peux aller jusque-là ? Donc, c'est peut-être un exemple tout à fait extrême et caricatural, mais on est bien sur cette problématique-là, jusqu'où on peut aller. Fonder une famille, c'est tout à fait légitime pour un couple. Maintenant, jusqu'où peut-on aller pour avoir un enfant ?
On parlait de Aud Mirkovic tout à l'heure. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr son interview en intégralité et en podcast sur le site de pharefm.com. On parlait aussi tout à l'heure des progrès de la science. Mm-hmm. On peut parler de la génétique, puisque c'était aussi un des débats qui a été abordé lors de ces états généraux de la bioéthique. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre l'avancée des recherches sur la génétique ?
Craindre les avancées de la génétique, sûrement pas, dans la mesure où on est dans le respect de l'être humain. Et on est sur la même problématique que sur la PMA. Enlever le verrou sur la PMA, le verrou médical, ça veut dire qu'on va mettre aussi une pression sociale sur les parents. Si demain, avec mon épouse, on a l'intention d'avoir un enfant, qu'on n'a pas spécialement de problème de fertilité, qu'on sait que l'un de nous deux a une maladie qui peut être transmise à notre enfant, et si on prend le risque, entre guillemets, d'avoir notre enfant de façon naturelle, est-ce que la société ne va pas nous accuser d'avoir pris le risque de mettre en danger, quelque part, l'enfant à naître ? Alors qu'il y avait une technique que la science a éprouvée et qui permettait, par l'intermédiaire d'un donneur, ou d'avoir un enfant pour lequel on aurait gommé, finalement, certaines anomalies. C'est pour ça qu'il faut... Tout est lié à la conception de la vie et les progrès de la génétique sont tout à fait intéressants dans la mesure où, en respectant la vie, on peut soigner. Mais si le but n'est pas de soigner, mais de faire un être augmenté, entre guillemets, ou un être parfait, ou si la course est au bébé que l'on a choisi avec toutes les caractéristiques physiques, intellectuelles qu'on aura choisies, à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à l'apprenti sorcier ? Donc la recherche génétique, oui, dans la mesure où on ne joue pas aux apprentis sorciers.
Finalement, c'est ça vraiment le maître mot qu'ont défendu les associations familiales catholiques lors de ces états généraux de la bioéthique. Oui à la famille, oui à la santé, oui à tout ce qui peut être des progrès, mais respectons finalement la famille naturelle.
Oui, respectons l'être humain. On a tous des anomalies. On peut rêver à un monde parfait qui n'arrivera jamais. Il y a tout un côté affectif dans ce que je dis aussi. Il ne faut pas croire que ce soit les AFC ou même on soit contre les progrès médicaux. Soyons bien clairs. Et dans la mesure où on peut soigner, où on peut réparer, mais à ce moment-là, il faut le faire. Mais si on doit mettre en jeu la vie d'autres êtres humains pour pouvoir en soigner certains, ça pose quand même de vrais problèmes de conscience et de vrais problèmes éthiques. Donc il faut une éthique solide, il faut une vraie réflexion. Et c'est pour ça que, quelque part, au départ, les états généraux pouvaient être un espoir. C'était de dire, voilà, il y a de vrais sujets derrière toutes ces questions. On n'est pas sur une problématique concernant une minorité de la population, concernant des cas particuliers, concernant peut-être une dizaine de cas de PMA par an ou de GPA par an. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire de l'être humain avec des progrès scientifiques qui sont louables, parce qu'on a permis de soigner un certain nombre de maladies, on permet d'éviter de la douleur, voilà, d'accompagner la vie autant que possible avec le moins de souffrance possible. Mais jusqu'où peut-on aller et quel sens profond ça a ?
On a parlé du début de la vie, on va parler d'un sujet un peu polémique ces derniers temps. Les associations familiales catholiques ont fait beaucoup parler d'elles en votant plus ou moins le texte du Conseil économique, social et environnemental explicitement favorable à l'euthanasie et au suicide assisté, même si un dissensus a été mentionné dans le texte. Pourtant, les AFC ont toujours été ouvertement contre l'euthanasie. Alors, on va poser la question un peu ouvertement, mais alors, que se passe-t-il ?
Peut-être un problème de communication. Peut-être que le 16 n'est pas un professionnel de la communication, c'est pour ça qu'ils ont commis cette erreur-là. Ce qui est certain, c'est que, et comme vous l'avez dit, les AFC, et qui participent au sein du 16 dans le groupe de l'UNAF, donc de l'Union Nationale des Associations Familiales, le groupe de l'UNAF s'est toujours positionné de façon très claire contre l'euthanasie. Et il y avait 3 articles dans cet avis qui étaient une ouverture claire sur l'euthanasie. Dès le départ dans les commissions, l'ancien président de la Confédération des AFC, Antoine Renard, a dit qu'ils étaient contre et qu'ils voulaient que ce dissensus apparaisse dans l'avis rendu du 16. Ce qui n'a pas été le cas quand l'avis a été rendu. On peut lire les positions de l'UNAF et du groupe UNAF, il est clair là-dessus et il mentionne le dissensus et il mentionne les articles pour lesquels l'UNAF se positionne absolument contre. La Confédération a demandé à ce que le 16 rectifie sa communication. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Voilà, il n'y a pas de changement de ligne au sein des AFC ni au sein de l'UNAF. Ils sont absolument contre. Par contre, dans cet avis, il y avait aussi des avancées sur les soins palliatifs, qui est un sujet qui est primordial également. Et Antoine Renard l'a dit clairement, il a dit qu'ils approuvaient le texte pour tout ce qui était indépendant de ces 3 articles-là qui concernent l'euthanasie. Mais c'est vrai que la presse a relayé l'avis que donnait le 16 sans forcément se poser d'autres questions. Du coup, ça a questionné beaucoup de monde et créé une petite polémique. Mais si ça peut permettre de réaffirmer que les AFC et l'UNAF, donc il n'y a pas que les AFC dans l'UNAF et pas que des associations catholiques, se positionnent clairement depuis des années contre l'euthanasie et que toutes leurs actions sont contre l'euthanasie, alors peut-être on peut trouver un petit point positif dans cette communication au moins malhabile.
Vous le dites, ouais, finalement, la question, c'est presque plus celle des soins palliatifs et du bien-être du patient, parce qu'aujourd'hui, finalement, si tant de personnes réclament ce droit à mourir, est-ce que c'est pas parce qu'on est mal soigné en fin de vie ?
On le voit à tous les niveaux, on le voit avec la polémique et la souffrance des personnels qui travaillent dans les EHPAD, on le voit sur des lois qui ont été votées et qui actaient clairement une politique sur les soins palliatifs avec des moyens qui n'ont jamais été mis en place. Il est clair qu'on est devant un phénomène où une personne en fin de vie ou une personne en grande souffrance pose question pour sa famille, pour elle-même, parce que c'est un moment où on se pose forcément des questions essentielles sur le sens de sa vie, sur à quoi bon cette souffrance, à quoi bon continuer ce parcours sur Terre alors qu'il est si douloureux. Et il y a besoin d'y mettre les moyens. Et là-dessus, un gouvernement qui veut réellement aider ses concitoyens doit mettre les moyens en place pour que effectivement on puisse accompagner les gens en fin de vie. Après, il ne faut pas non plus aller à l'encontre de ce pourquoi on a créé la médecine, les hôpitaux. Un médecin, sa vocation, entre guillemets, c'est de soigner, c'est pas de mettre fin à la vie. Donc, même si un patient le lui demande, peut-on aller jusque-là ?
Comment est-ce qu'on explique que ce droit à mourir mobilise presque davantage que le droit à vivre ? La fin de vie a été l'un des sujets les plus débattus dans le contexte des états généraux de la bioéthique. On a presque l'impression que les gens s'intéressent plus à comment est-ce qu'ils vont mourir que pourquoi est-ce qu'il faut vivre ?
C'est une bonne question. Après, parce qu'on est dans le domaine émotionnel, on est dans l'affectif. Il y a eu aussi quelques cas médiatiques de personnes qui sont allées à l'étranger pour demander. Il y a des législations dans des pays étrangers qui permettent aussi ces actes-là. Donc il y a sûrement des gens qui sont très mobilisés pour faire avancer le droit en ce sens-là. De façon purement économique, et c'est malheureux de le dire, mais il y a un intérêt aussi, et il y a y compris des hommes politiques d'influence qui à un moment donné ont dit que clairement, ça coûtait cher. Et c'est sûr que mettre en place des soins palliatifs, ça demande d'énormes moyens. Mais aujourd'hui, est-ce que la société peut se permettre, pour des raisons d'économie, finalement, d'encourager les gens à mourir ? Mais je crois que les deux droits sont liés, le droit à vivre c'est le droit aussi à continuer à vivre la fin de vie. Donc. Et puis tant que l'enfant n'est pas là, il ne peut pas s'exprimer, donc c'est plus compliqué pour l'entendre. Alors que, voilà, des personnes qui souffrent, on a tous des moments d'égarement, on a tous des moments où on est désespéré, y compris dans notre vie quotidienne, on a tous des moments où on a envie de tout balancer, et c'est pas pour autant qu'on le fait, donc voilà, c'est la réaction humaine, c'est l'être humain qui est comme ça, mais un débat serein et un débat au niveau de l'état et du sens que la société va prendre pour défendre la vie ne peut pas se limiter à de l'émotionnel, ne peut pas se limiter à des cas particuliers, ne peut pas se limiter à des réactions comme on peut en avoir au quotidien par rapport à des événements qui nous énervent ou qui...
On va sortir justement de l'émotionnel et parler d'un sujet qui paraître un peu plus léger, mais qui est quand même important puisque j'ai envie qu'on parle de la révolution numérique, des grandes révolutions de la société qui impactent forcément aussi la famille, la généralisation des écrans dans toutes les sphères de la vie quotidienne, que ce soit les parents comme les enfants ont accès quasiment tout le temps à un écran. Comment la famille peut être au bénéfice de cet outil ?
En continuant à maîtriser l'utilisation de cet outil. Ça veut dire savoir quels sont les impacts de ces outils-là, les conséquences sur les enfants, sur la vie familiale, sur la vie en général. Ça peut être un bénéfice dans la mesure où c'est maîtrisé et où on va savoir en tirer les côtés positifs. Un agenda partagé peut être un outil fantastique pour une famille, pour éviter d'oublier tel ou tel rendez-vous et puis de ne pas en avoir plusieurs au même moment. Quand on est figé sur son téléphone, sur son smartphone toute la journée, ça pose un réel problème. Et on parlait d'émotionnel, on est encore dans l'émotionnel et toutes les dernières études montrent que les jeunes enfants exposés aux écrans, et c'est de plus en plus fréquent parce que le smartphone est un outil très facile à utiliser, parce qu'il est facile d'accès, parce que montre que justement un enfant exposé aux écrans reçoit une charge émotionnelle qu'il n'est pas capable de gérer. Et ensuite son comportement en dépend une fois qu'il il quitte l'objet. Donc ça a des conséquences sur toute la vie familiale. On a l'impression des fois, quand un enfant sort de la télévision ou sort de son jeu vidéo, que ça l'a énervé, qu'il est surexcité et tout ça. Et en fait, c'est pas un problème de surexcitation, c'est un problème d'émotion qu'on lui a balancé pendant des minutes et des minutes pour lesquelles il n'a pas été en mesure de réagir. Donc... Après, il y a ce trop-plein d'émotions qu'il faut qu'il extériorise. Donc, dans la vie quotidienne, il y a sûrement des avantages, mais il faut que toute la famille en prenne conscience et qu'on continue à vivre en famille. Aujourd'hui, le vrai risque de tous les écrans, c'est de déstructurer la famille, c'est-à-dire que chacun vive avec son écran et puis qu'on se retrouve peut-être même plus autour d'une table pour discuter ou pour prendre le repas parce que chacun sera sur son smartphone, sur sa tablette. Au-delà des conséquences qui peuvent être neurologiques ou sur les jeunes enfants, il y a aussi la sociabilisation des enfants et le maintien de la cellule familiale qui finalement de l'intérieur est attaquée parce que chaque membre de la famille a un contact direct avec autre chose, avec quelque chose de virtuel qui l'ôte finalement à l'ambiance familiale.
C'est un vrai sujet qui est de plus en plus sur le devant de la table au sein des AFC ou en tout cas ici dans le Bas-Dauphiné, c'est quelque chose auquel il faut s'atteler.
Ah oui, clairement. Et quand je vois que même Envoyé Spécial fait des reportages pour expliquer que des enfants de 3 ans s'arrêtent de parler du jour au lendemain et qu'on s'aperçoit que c'est parce que, de façon anodine, la maman a laissé le portable pour écouter telle ou telle comptine et que ça calmait l'enfant et qu'elle en a pris l'habitude et que l'enfant s'est enfermé de lui-même dans cette situation et qu'au bout d'une semaine sans écran, finalement, cet enfant, il se remet à parler et puis il redécouvre sa mère, ce qui est beau. On n'a pas fini de découvrir sa mère, mais c'est vrai que c'est réellement un sujet... où on se retrouve avec des gens qui sont en souffrance à l'heure actuelle, qui perdent le contact avec leurs enfants, ou des enfants qui perdent le contact avec leurs parents. Aujourd'hui, on a l'impression que parce que son enfant a un portable, il est joignable partout. Et aujourd'hui, si on n'a pas envie d'être joignable, on ne l'est pas. Et donc, on est rentré dans des relations qui deviennent de plus en plus fausses, et qui sont faussées justement parce qu'on se rassure en laissant l'accès à un portable, parce qu'on a l'impression que... on est toujours en communication alors qu'en fait tout est virtuel et qu'il n'y a plus de relations réelles. Donc oui, c'est un sujet qui sera peut-être bientôt un scandale sanitaire en France. Enfin, c'est réellement grave et je pense que même la communauté scientifique commence à s'émouvoir de cette situation-là. Donc des enfants qui se déscolarisent, qui sont totalement désociabilisés à cause des jeux vidéo, des smartphones, des réseaux sociaux, sans compter toutes les craintes qu'on peut avoir par rapport aux réseaux sociaux. quant à l'accès à la pornographie, quant à l'accès à la pédophilie, enfin, voilà, à des relations qui se créent avec des inconnus et qui finissent par des catastrophes. Voilà, je crois qu'il y a un nouveau défi. Les avancées technologiques, elles peuvent apporter beaucoup de choses, mais il faut savoir les maîtriser, et puis il ne faut pas que ce soit le smartphone qui guide notre vie. Si c'est l'agenda qui guide ma vie, à ce moment-là, il n'est plus partagé. C'est lui peut-être qui me partage avec d'autres.
On disait, pour commencer cette semaine, que la famille ne va pas si mal, elle ne va pas si mal si on en prend soin, alors ce sera notre mot de la fin.
Oui, et puis je crois qu'à chaque fois qu'on croit qu'une catastrophe arrive, on décèle de nouvelles richesses au sein de la famille, et puis des richesses qui se développent au fur et à mesure, donc... La famille est pleine de ressources, alors oui, prenons-en soin, protégeons-la.
Merci beaucoup Stéphane Closon, on rappelle que vous êtes président de l'association familiale catholique du Bas-Dauphiné.
Merci.